Bonjour à tous. Nous allons ouvrir la parole de Dieu ce matin et je vous invite à lire sans plus tarder, à ouvrir la Bible du coup dans le livre de Malachie, du prophète Malachie. C'est un livre qu'on n'ouvre pas souvent. Alors je ne sais pas vous, hein, peut-être que vous l'ouvrez tous les jours, mais c'est un petit prophète. Malachie chapitre 1, à partir du verset 1 à 5, donc les 5 premiers versets. Alors Malachie, pour du coup vous situer, que vous avez à retrouver dans vos Bibles, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament, donc vous prenez Matthieu, premier évangile, et vous faites un pas en arrière, deux, trois pages peut-être, si vous avez des pages blanches, et vous avez le livre de Malachie. Malachie, du coup, chapitre 1, versets 1 à 5. Proclamation, parole que l'Éternel a adressée à Israël par l'intermédiaire de Malachie. « Moi, je vous ai aimé, déclare l'Éternel. » Et vous me demandez, en quoi donc nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob? Demande l'Éternel. Or j'ai aimé Jacob et j'ai écarté Ésaü. J'ai fait de ses montagnes un pays désolé et j'ai livré son patrimoine aux chacals du désert. Édom peut bien dire, nous avons été démolis, mais nous rebâtirons ce qui n'est plus que ruine. Mais le Seigneur des armées déclare, eux ils rebâtiront, moi, je démolirai. On appellera leur pays le territoire de la méchanceté, le peuple contre qui toujours l'Éternel sera en colère. Et vous le verrez de vos yeux et vous direz, l'Éternel est très grand, même au-delà du territoire d'Israël. Merci Seigneur encore pour ta parole ce matin, que nous ouvrons et Seigneur vient encore parler à nos cœurs. Viens Saint-Esprit encore agir en nous, que nos oreilles puissent être attentives, que nous puissions encore recevoir ta parole, non pas juste dans notre intellect, mais le vivre pleinement dans nos cœurs, Jésus. Amen. Passage assez particulier du prophète Malachie. On est au début, du coup, du livre, hein, c'est les premiers versets. Moi, je vous ai aimé. Quelle parole extraordinaire du Seigneur. Une déclaration d'amour formidable de la part de Dieu. Et voilà, en déclaration d'amour, alors peut-être que vous y connaissez. Moi, j'ai lu une histoire à propos de déclaration d'amour, justement. C'est l'histoire entre un homme et son épouse, et ils approchaient de leur anniversaire de mariage. Alors, vous savez, anniversaire de mariage, il faut en fait des noces, et c'est des noces en lien avec un objet. Donc, on a noces de coton, noces de cuir, noces de ficelle, bon, après, on peut mettre n'importe quel objet, noces de carton, ou je sais pas quoi. Mais voilà. Et plus on avance, normalement, plus les objets sont précieux ou sont chers. On termine des fois, voilà, 50 ans, alors je sais plus si c'est or ou pas. Voilà, donc c'est des, voilà, on commence à tomber sur des choses, voilà, c'est plus du carton ou du ficelle ou de cuir. C'est des choses assez, assez précieuses et qui coûtent cher. Et il se trouve que ce couple était marié depuis longtemps. Alors, j'ai pas lu combien de temps, mais ils étaient mariés depuis longtemps. Et à une semaine de leur anniversaire de mariage, l'épouse va faire un rêve. Et le lendemain, elle va le raconter à son mari, j'ai fait un rêve formidable. J'ai rêvé que tu m'offrais un collier en or. Pas un petit collier, hein, un gros collier en or, quoi. Donc elle dit, ah c'est chouette, j'ai rêvé de ça. Alors vous imaginez la pression pour son mari, hein. Une semaine du mariage, anniversaire du mariage. Et le mari qui répond, ouais, tu sais que notre anniversaire de mariage approche, sois patiente, ma chérie. Voilà, quelques jours et puis tu sauras du coup ce que je t'ai préparé. Quelques jours après, son épouse fait un autre rêve. Et durant la nuit, le lendemain matin, elle raconte encore à son mari et elle lui dit « J'ai rêvé, j'ai fait même un rêve mieux que le précédent. J'ai rêvé que tu m'offrais un collier de perles. » Pas des petites perles, hein, des grosses perles. Pas des fausses perles, des vraies perles. Elle dit « C'était super, c'était magnifique. » Et son mari lui dit « Chérie, un peu de patience. Encore quelques jours et tu sauras du coup, tu sauras tout. » La veille de l'anniversaire du mariage, elle rêve encore, décidément, elle rêve beaucoup, cette petite dame, et elle lui raconte le lendemain, j'ai fait un rêve encore fabuleux, mieux qu'il y a quelques jours. Tu m'offrais une rivière de diamants. Et j'étais accroché à mon cou, c'était fabuleux, ah, j'étais bien. Et il dit, ma chérie, patiente encore quelques heures, et ce soir, tu sauras ce que je t'ai préparé. Et le soir, le mari, il va préparer du coup un magnifique dîner aux chandelles. Voilà, il sort toute la panoplie. Et un dîner assez romantique. Et puis à la fin, du coup, du repas, voilà, tout est super là. Il va sortir un magnifique paquet qu'il va tendre à son épouse et elle va dire « Ah, enfin le cadeau dont j'ai tant rêvé !» Et elle l'ouvre, et elle ouvre ce magnifique cadeau et elle tombe du coup sur un magnifique livre sur la signification des rêves. Voilà, bon, les maris, des fois, voilà, on entend qu'il y a... voilà, ça tombe bien, il connaissait sa femme. Du coup, ça va peut-être aider, en tout cas, voilà. Tout ça pour dire qu'on va parler d'amour ce matin, un amour bien plus élevé que l'amour qui peut se vivre au sein d'un couple ou au sein d'une famille. Un amour beaucoup plus profond, ici, c'est de l'amour de Dieu dont on va parler. Alors, vous allez me dire, ouais, on connaît. Mais alors, c'est une particularité de l'amour dont on va parler, mais c'est quand même la base de notre foi, l'amour de Dieu. Et le livre de Malachie contient et c'est important du coup de savoir un peu le contexte, les dernières paroles que Dieu va adresser à son peuple, à Israël. Malachie, c'est le dernier des prophètes. Après Malachie, il va plus y avoir aucun prophète qui va annoncer la parole de Dieu, puisque après Malachie, ce sera le Messie, Jésus, qui va venir. Alors, nous, quand on lit le texte, on passe de Malachie à Matthieu très rapidement. On se rend pas compte du temps qui passe, mais Malachie se situe au bord d'un gouffre. Un énorme gouffre. Un gouffre de plus de 4 siècles de silence. Malachie va parler, il va s'écouler plus de 400 ans, entre 400 et 500 ans, et où Dieu ne va plus du tout parler à aucun membre du peuple, aucun prophète, rien. C'est le désert. Alors vous pouvez lire, et voilà, alors c'est pas un texte qui se situe dans la Bible, hein, c'est les livres intertestamentaires, donc voilà, il y a les Maccabées, tout ça, voilà. Donc ça raconte un peu toute cette période très floue de cette période de l'histoire d'Israël, assez sombre aussi, et où Dieu n'est pas là. Il est absent de la relation avec son peuple. Et Malachie, ici, c'est le dernier. Dernier prophète qui parle au nom du Seigneur. Comme si Dieu n'avait pas parlé, si je prends pour aujourd'hui, depuis 400-500 ans, donc on est à Henri IV, hein. Renaissance. Donc il n'y a même pas encore Louis XIII et Louis XIV, hein. Donc voilà, vous situez un petit peu. Donc, et depuis tout ce temps, du coup, Dieu n'a pas parlé. Imaginez un petit peu. Du coup, les personnes, les générations qui se suivent, le Seigneur, ils ne le connaissent pas. Ils ont entendu parler peut-être, mais ils ne l'ont pas vu, ils ne l'ont pas vécu. Et Malachie, du coup, se situe au bord de ce long gouffre de silence, où Dieu, du coup, ne va plus s'exprimer. Ce livre est donc, du coup, ici, une dernière lettre de Dieu à son peuple, une lettre d'espoir, une lettre d'encouragement, mais aussi d'amour, pour soutenir son peuple jusqu'à la venue du Messie promis, ce Messie que le peuple du coup attend depuis des siècles. Donc c'est un livre assez particulier. Dernier des voilà, c'est un petit prophète, mais un prophète quand même, voilà, qui a sa place puisque c'est un des derniers ici de l'ancienne alliance avant l'arrivée du Messie. Une des particularités du livre de Malachie, si vous ne le connaissez pas, voilà, je vous invite à le lire. Hein, c'est un livre qui est assez riche. C'est que c'est un livre où le peuple va poser des questions à Dieu, des questions que l'on pourrait nous aussi nous poser. Et au verset 2, on a ceci. « Moi, je vous ai aimé, déclare l'Éternel, et vous, vous me demandez, en quoi donc nous as-tu aimé ?» Et du coup, ça va être le titre de mon message ce matin. « Seigneur, en quoi m'as-tu aimé ?» C'est une question qu'on peut se poser. Et on pourrait se dire, voilà, il y a une déclaration d'amour de Dieu. « Moi, je vous ai aimé. » Et en face, tout ce que Dieu reçoit comme réponse, c'est une question. Et Dieu, en quoi tu m'as aimé? Où est ton amour pour nous? On ne voit aucune évidence de ton amour pour nos vies. En quoi vraiment tu nous as aimés? Tu nous dis que tu nous aimes. En quoi alors? Nous, on ne le voit pas. Vous imaginez un peu la relation là entre le peuple et Dieu. Dieu qui déclare son amour et le peuple qui, du coup, n'a pas l'impression de le voir, en sachant qu'ils ne savent pas encore. Mais après, ils ont 400 ans où il y a le silence total, hein. Donc, alors c'est pas Dieu qui s'est vexé, hein. C'est autre chose. Mais ça, le pape ne le sait pas encore. Et pourtant, Dieu se manifeste et il déclare son amour. Imaginez que vous exprimez votre amour à votre conjoint ou allez même lui à vos enfants et que celui-ci vous répond ce type de question. Papa, maman, oui chérie, pourquoi tu m'aimes? En quoi tu m'aimes? Bon, tout de suite, ça remet on redescend tout de suite et ça permet d'échanger, de discuter. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais avec des enfants, ça arrive, hein, ça peut arriver. Ça refroidit, hein, tout de suite, ça calme un petit peu. Mais pour bien comprendre cette question que le peuple se pose pleine de doutes, il faut remettre dans le contexte. Les Israélites, en fait, ils ont vécu un exil. Ils ont été arrachés de leur pays d'origine où ils vivaient et ils avaient été déportés en esclavage dans un pays étranger sous la domination de puissances étrangères. Ça va commencer par les Babyloniens et ça va durer quelques dizaines d'années et puis ensuite ça va être les Perses, successeurs des Babyloniens. Et ça va durer longtemps puisque ça va durer à peu près 70 ans. 70 ans de déportation où le peuple va vivre captif sous l'esclavage. Après 70 ans, on va permettre, et les nations ici, les Perses, vont permettre à un petit groupe, pas la totalité du peuple, à un petit groupe d'Israélites de revenir chez eux. Et du coup, là, c'était la joie. Le peuple retrouve la terre qu'il a quittée, sauf que le pays était dévasté et en ruine, à l'abandon. 70 ans. Vous laissez un terrain 70 ans, vous le retrouvez. Surtout que quand les Perses sont partis, ils ont brûlé, ils ont tout saccagé. Ils ont tout brûlé. Quand les Israélites reviennent, c'est la ruine. Donc c'était la misère. Ils n'étaient pas non plus nombreux. Et Malachi, on arrive dans cette période-là. On est quelques années après le retour des Israélites dans leur terre. Et c'est la misère. Les années prospères de la nation d'Israël, avec le roi David, le roi Salomon, construction du temple, sont loin, très loin. Puisque cela fait 150 ans que tout cela est terminé. Et les 150 dernières années, finalement, qui ont suivi, ont été tragiques pour le peuple. Il y a eu la déportation, il y a eu des divisions, la nation d'Israël qui va se diviser avec le royaume de Juda, le royaume d'Israël, guerre civile, beaucoup de tragédies qui vont se succéder, de souffrances. Et pour la génération de Malachi, du prophète, toutes ces histoires finalement que les anciens leur racontent, c'est loin. Pour eux, ils voient que la misère. Ils ont grandi dans un pays étranger, ils reviennent, tout est en ruine, il n'y a plus rien. Et du coup, on peut comprendre leur interrogation. Et le Seigneur qui dit « Moi, je vous ai aimé ». Le sourire qu'ils ont dû faire, ils ont dû se dire « Bon, t'es bien gentil toi, mais si c'est ça ton amour, c'est qu'il faut revoir un peu la définition. » Ils vont revenir d'exil, les Israélites, ils vont reconstruire le temple. Avec Esdras, vous voyez un peu, donc c'est avec, il y a le livre, même un livre d'Esdras dans la Bible, vous pouvez le lire, très, très intéressant. Ils vont construire le temple, donc quelque chose d'extraordinaire, reconstruire le temple. Mais pour le peuple qui revient, le temple n'avait pas le même éclat que le temple de Salomon, que le premier temple. Pas la même prestance, pas la même prestige. Ils vont reconstruire ensuite les murailles de Jérusalem avec Néhémie. Il y a un livre, Néhémie. Mais ils n'étaient pas débarrassés de tous leurs ennemis. Eux, ils étaient qu'un petit groupe, et en face, les ennemis sont beaucoup plus nombreux. Eux, ils n'ont pas été déportés. Du coup, ils sont beaucoup plus puissants et forts. Du coup, il y a le scepticisme qui régnait dans le peuple, et le pessimisme était courant. Mais ça peut se comprendre. Avec tout ce qu'ils ont vécu, le pessimiste, c'était leur lot. Et voilà un peu le contexte un peu de cette question qu'ils vont poser. « Seigneur, en quoi m'as-tu aimé ?» Dieu avait permis ces tragédies. Il avait permis que ces tragédies touchent le peuple l'une après l'autre. Pendant 150 ans, jusqu'à même la destruction en terre étrangère. Puisque la nation d'Israël, après le roi Salomon, ils vont se diviser en deux, royaume de Juda, royaume d'Israël. Et finalement, le royaume d'Israël n'existe plus, d'ailleurs, puisque c'est le royaume de Juda, après, qui va être déporté, Samarie, et ça n'existe plus. Et ici, pourquoi? Parce que le Seigneur, finalement, ici, va tenir une de ses paroles, c'est qu'il aime tellement le peuple, et le peuple, lui, a été infidèle. Il s'est tourné vers les idoles, vers les nations, finalement, les dieux des nations païennes, et Dieu les a avertis à multiples reprises, mais parce que Dieu les aime, il leur a aussi dit que s'ils ne se repentent pas, du coup, ce sera la déportation, pour qu'ils puissent revenir vers lui. J'avais parlé il y a quelques semaines du Dieu jaloux. Là, c'est le Dieu jaloux qui se manifeste. Dans son amour, il n'écrase pas non plus, mais il fait passer par l'épreuve. Une épreuve qui dure. Et qui dure. À leur retour, du coup, ils trouvent un pays en ruine, et le peu qu'ils ont réussi à extraire du sol, c'est un temple, qui leur paraît pas si bien que ça, et une muraille. Mais les Israélites, déjà, sur le peu qu'ils ont fait, ils pensent que c'est grâce à leur propre force, à leur propre énergie, qu'ils ont construit déjà cela. Et quand le Seigneur va leur dire « Je vous ai aimé », eux vont tout logiquement répondre en quoi tu nous as aimés. Même le temple, il n'est pas terrible, c'est nous qui l'avons fait. Voilà, c'est ce qu'ils croient, eux croient. Et du coup, voilà, répondre, où était ton amour quelque part dans ces 550 ans de misère? Il serait difficile de juger les Israélites, puisque en tant qu'être humain, aujourd'hui, le monde n'a pas beaucoup changé. Et il est courant d'entendre cela. Je vous ai déjà pu peut-être entendre des personnes qui disent « Où est Dieu dans toutes ces tragédies que l'on vit ?» Et ça peut être voilà des voisins, collègues de travail, amis, membres de famille qui posent la question « Où est Dieu ?» Où est Dieu dans ces tragédies au niveau international ? Il y a la guerre aujourd'hui, les catastrophes naturelles, le terrorisme, tragédie au niveau national, la pauvreté, qui grandit et qui est en expansion, perte d'emploi, difficulté pour se loger. Aujourd'hui, il n'y a rien qui est tout rose, hein. C'est même plutôt le contraire. Il y a un pessimisme ambiant, tragédie même au niveau familial et personnel, avec de la violence entre conjoints, violence conjugale, divorce, maladie incurable, cancer, injustice et la ligue. Et la liste, voilà. Elle est longue, vous pouvez la rallonger. Il y a plein d'événements qui pourrait nous faire poser cette question, « Seigneur, en quoi m'as-tu aimé ?» La question que les hommes se sont posées il y a quelques milliers d'années, aujourd'hui on n'a pas changé, et par rapport à ce que l'on peut vivre, on peut se poser la question, « Seigneur, en quoi m'as-tu aimé ?» Où sont les preuves, quelque part, de ton amour pour moi ? Et quand je dis ça, je pense pas forcément à des personnes qui ne sont pas que chrétiennes, hein. Je pense même en tant que chrétien, il peut nous arriver de douter, comme les Israélites, surtout quand on passe par l'épreuve, lorsque nous sommes dans la fournaise ardente, et que rien ne va comme prévu. Le doute s'installe, et on peut se poser la question, « Seigneur, où est ton amour ?» Alors on revient au verset 2. Verset 2, c'est ce que Dieu va dire, « Moi, je vous ai aimé. » Alors, dans la version hébreu, le terme qui est employé, la conjugaison du verbe, c'est le sens précis, c'est « moi je vous ai aimé et je continuerai de vous aimer ». C'est un prolongement dans la parole et dans la proclamation du Seigneur. C'est pas « je vous ai aimé juste au passé », c'est un prolongement dans le présent et dans le futur. La conjugaison du verbe ici est importante. Et du coup, on peut voir ici que tout au long de l'histoire du peuple, Dieu a manifesté son amour déjà en ne les exterminant pas. Puisqu'ils ont été infidèles, et pourtant Dieu va quand même garder un reste. Un reste pour qu'ils puissent se tourner vers lui. Et même si du coup ils sont en esclavage, le peuple est là. Ils sont là. En permettant aussi à un petit groupe de revenir dans le pays promis, et même si le peuple croit que c'est eux qui ont construit le temple de leur propre force, si vous relisez Esdras et Néhémie, on peut voir la main de Dieu qui va protéger ce petit groupe d'homme qui n'a pas d'armée, contre les ennemis qui sont autour. À travers des hommes, hein, comme Esdras, Néhémie, des hommes qui ont une foi dans le Seigneur. Et si Dieu finalement a permis l'épreuve, c'était pour les libérer de leur désobéissance. Ils étaient sous l'esclavage des idoles des pays voisins, et Dieu voulait leur montrer c'est quoi être esclave de quelque chose. De manière ici concrète et réelle, et Dieu, parce qu'il les aime, va les reprendre. Et le peuple a considéré que ce n'était pas que de l'amour de la part de Dieu. Et ça, comme beaucoup d'enfants aujourd'hui, hein. On reprend un enfant, des fois les enfants peuvent dire « oui, mais si tu me punis, c'est que tu m'aimes pas ». Mais la correction fait partie du cadre de l'amour. Bien sûr, la correction, c'est pas, on n'abuse pas, hein. On n'est pas dans on frappe pas. Mais la discipline, en tant que parent, que l'on inculque aux enfants, c'est parce qu'on les aime. Vous pourrez parler de ce sujet, hein. Il y a beaucoup de textes qui parlent de la discipline en tant que parent vis-à-vis des enfants, et il y a un texte très fort qui va dire « celui qui n'aime pas son enfant ne le corrige pas, ne le discipline pas », le mot est un peu plus juste. Pour le Seigneur, c'est la même chose. Vis-à-vis de nous, le Seigneur nous aime tellement que c'est... Et voilà, on reste, même si on aime le Seigneur, des fois c'est dans nos moments de faiblesse qu'on est à l'écoute de Dieu. Quand tout va bien, c'est difficile de changer. D'ailleurs, on ne change pas. Quand tout va bien, on ne pense pas à ce que l'on fait, ce qu'on agit. Et le peuple, c'était pareil, hein. Ils avaient du compromis dans leur vie avec les idoles. Et Dieu a laissé beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Des centaines d'années. tout en avertissant par tous les prophètes de l'Ancien Testament, si vous ne changez pas, vous allez finir déporté. Mais vu que tout allait bien, il n'y avait pas de raison qu'il change. Suit la déportation, et quand la déportation arrive, là, le peuple se pose des questions. Pourquoi le malheur nous frappe? Et le peuple, du coup, voilà, les prophètes vont arriver, il y a le prophète Daniel, prophète durant la déportation, qui va parler au peuple, en disant qu'ils ont besoin de revenir finalement vers le Seigneur. Et Dieu finalement leur parle. Et quand dit Dieu « je vous ai aimé », c'est dans ce cadre-là. Le peuple ne le saisit pas. Il ne le saisit pas pourquoi ? Puisque le peuple à ce moment-là, quand Dieu leur dit « je vous ai aimé », le peuple est braqué sur le présent. Et le présent uniquement, sur le maintenant. N'arrivant pas à se focaliser sur le passé, mais uniquement sur ce qu'ils vivent. Et on peut leur ressembler. Bien souvent, quand on doute de l'amour du Seigneur, nous sommes focalisés sur ce que nous vivons sur le moment présent, sur le moment même. Et on ne voit plus l'amour de Dieu sur le avant. Oubliant que l'amour de Dieu, et ça mes frères et sœurs, c'est un point à nous rappeler, l'amour de Dieu œuvre au travers du temps. On peut voir l'amour de Dieu de manière présente, c'est vrai, mais si on regarde qu'au moment présent, on est comme des enfants. Où le parent fait quelque chose de positif, ah tu m'aimes, le lendemain il y a une épreuve, tu m'aimes plus. Et du coup on est instable. Paul va en parler de l'instabilité d'ailleurs, de l'immaturité de ceux qui pensent que l'amour de Dieu change. Du coup il nous faut du temps pour distinguer cet amour et du recul, pour distinguer l'amour de Dieu dans nos vies. Ce matin, notre sœur Colette a parlé de « compte les bienfaits de Dieu ». C'est un texte, hein, c'est un texte dans les psaumes, « compte les bienfaits de Dieu ». C'est-à-dire, prends le temps de te poser et de regarder en arrière ce que Dieu a fait. Souvent, on ne voit pas l'amour de Dieu quand on fait face à la souffrance. Pourtant, ils peuvent être un signe de l'amour de Dieu. Alors, pas systématiquement. Des fois, dans des épreuves, c'est le péché qui est là. Et ce n'est pas forcément là Dieu qui est là, mais des fois, Dieu permet certaines des souffrances pour éviter des mauvais choix de vie. Sur le moment, on peut ne pas le comprendre, et quelquefois même on ne le comprend pas, mais c'est par la suite qu'on peut des fois se dire « mais si j'ai traversé ça, au moins ça m'a permis de me rapprocher du Seigneur. » Un jour, on était sur la route avec Eliette, voilà, il y avait un long trajet, et on discutait un peu de tout et de rien, alors je ne sais pas si elle m'avait fait la discussion pour pas que je m'endorme, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, mais elle m'avait posé une question, à un moment, une fameuse question. Peut-être que vous vous êtes posé, hein, et qu'on vous a posé. Si tu pouvais revenir en arrière, David, qu'est-ce que tu changerais à ta vie? Ah, j'étais bien réveillé, hein, du coup. Genre de questions qui réveillent. Et voilà, donc on se dit, si j'avais une machine à remonter le temps, qu'est-ce que je prendrais? Est-ce que je prendrais les mêmes décisions à ce moment-là? Est-ce que je ferais les mêmes choix? Est-ce que j'éviterais certaines paroles que j'ai pu avoir envers un tel et un tel, et ces paroles qui ont eu un impact sur toute ma vie après. Des choix qui ont eu des impacts, est-ce que je pourrais changer certaines choses de ma vie? Alors, je ne sais pas vous, hein, mais c'est une question à se poser. Si on peut revenir en arrière, est-ce qu'il y a des choses, finalement, que je pourrais changer? Alors, bon, à me poser les questions, moi, j'avais déjà réfléchi à ce genre de questions, et du coup, je lui ai dit non, rien. Je ne changerai rien, parce que je n'ai jamais fait d'erreur, hein. Ou pas parce que j'en ai fait quand même pas mal, même si je suis encore jeune, j'en ai fait des erreurs. Pas parce que je n'ai pas connu d'échecs, non, j'en ai connu aussi malheureusement des échecs. Et pas parce que non plus je n'ai jamais vécu de moments de souffrance. Ça, j'en ai aussi vécu, loin de là d'ailleurs. J'ai répondu rien parce que je sais que c'est surtout dans ces moments-là que j'ai vu le Seigneur agir. Et même si c'est difficile, ça ne veut pas dire que du coup j'ai envie de revivre ça. Hein. c'est bien que ça soit passé. Mais dans ces moments-là, j'ai vu la main de Dieu. Peut-être pas tout de suite, mais ça a forgé ce que je suis aujourd'hui. Dans ces moments difficiles, finalement, Dieu a pu travailler en moi. Et c'est dans les moments d'épreuve, finalement, que Dieu nous travaille, qu'il nous parle, puisque nous sommes plus à vif, le cœur est ouvert, il est disposé à écouter le Seigneur à travers sa parole, à travers des frères et sœurs, à travers quiconque d'ailleurs, ça peut être n'importe qui, que Dieu peut utiliser pour nous parler. Et cela m'a permis, dans bien des situations de souffrance apparente, d'épreuves, des chemins de perdition, de faire des mauvais choix, des choix qui m'auraient éloigné du Seigneur. Les fameux chemins de perdition. Dans la Bible, quand il est question de chemins de perdition, c'est des chemins tout simplement qui éloignent du Seigneur. Donc ça peut être des chemins très positifs, hein, de manière humaine, mais des chemins de perdition puisqu'elles éloignent de Dieu. Et les épreuves ici, c'est l'objectif de l'épreuve. C'est de pouvoir ici, au contraire, ressembler de plus en plus au Seigneur. Si Dieu permet cela, ce n'est pas pour nous rendre misérables, mais pour lui faire confiance et que notre confiance en lui grandisse. Je le disais tout à l'heure, hein, dans les moments de joie, quand tout va bien, on ne peut pas grandir dans la confiance dans le Seigneur. Alors vous pouvez peut-être grandir, hein, mais ce sera minime. Parce que nous sommes trop suffisants, tout simplement. On est trop suffisants à nous-mêmes. Et du coup, on se repose sur nos propres forces. Et du coup, il faut l'épreuve pour que Dieu nous façonne, comme le potier avec l'argile, pour que nous ressemblions à son Fils, Jésus. Romains chapitre 8, verset 29, va dire ceci. En effet, ce que Dieu a enveloppé d'avance dans son plan d'amour, ça on aime bien, première partie on aime bien. Il a décidé de faire d'eux ses enfants au même titre que son propre fils et de les façonner pour qu'ils lui ressemblent, afin qu'ils soient l'aîné d'une nombreuse famille de frères. Dieu nous façonne. Il nous façonne qu'on le veuille ou pas, et du coup en fonction de notre état d'esprit, soit ça va faire mal, déjà que l'épreuve elle est difficile, soit ça fera mal, soit ça fera encore plus mal. Le peuple, pourquoi il a été déporté pendant 150 ans? Parce qu'il n'avait pas compris. Et du coup, il a fallu, et c'était pas la première fois pourtant, avec Moïse, il y a eu la même chose, 40 ans dans le désert, pour qu'ils comprennent enfin que le Seigneur attend d'eux un amour entier, sans compromis. Pas que nous soyons parfaits, Dieu sait qu'on n'est pas parfait, mais un état d'esprit disposé. C'est un beau verset, ce verset de Romains. Paul, il en parle bien, puisque Dieu lui-même a façonné l'apôtre Paul. Paul, il revient de loin. Lui qui persécutait les chrétiens, il a su être finalement un des plus gros apôtres de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Dieu va travailler dans son cœur, va le façonner. Ce que Dieu a enveloppé dans son plan d'amour, c'est chacun de nous. Chacun de nous, et Israël, eux, avaient oublié cela, que finalement Dieu enveloppe dans son amour. Au lieu d'être plus ressemblants au Seigneur à travers les épreuves, ils sont devenus de plus en plus misérables, puisqu'ils sortent de la déportation, de l'exil, et voilà, ils sont misérables dans leur état. Et c'est pour ça que le Seigneur va leur rappeler son alliance à travers Malachie. « Moi, je vous aime. » Et Dieu rappelle ici l'alliance qu'il a fait au peuple, le fait qu'un jour, Dieu s'est engagé de les aimer pour toujours. Que eux soient fidèles ou infidèles. Eux ne le ressentaient plus. Ils ressentaient plus quelque part l'amour de Dieu. Se confiant d'ailleurs peut-être trop dans leurs émotions. Et des fois, nous faisons nous bien cela. Et on dit des fois, je sens que Dieu ne m'aime pas. Ça vous est jamais arrivé, ça? Aujourd'hui, je sens que Dieu ne m'aime pas, je sens que. On aime bien les « je sens que ». Je ne sais pas si vous connaissez Karl Barth. Karl Barth, c'est un grand théologien, voilà, du début de la, du 20e siècle. Et voilà, un jour, quelqu'un, un étudiant, va lui poser une question, et il va lui poser la question, voilà, quelle est la pensée la plus profonde qui vous a marqué? Et Karl Barth va lui répondre par une chanson pour enfants. Jésus m'aime, et je le sais, car la Bible me le dit. Fabuleux. Hein? Jésus m'aime, et je le sais, car la Bible me le dit. Ça résume tout. Sa réponse est tellement vraie, Jésus m'aime, et je le sais, puisque sa parole le déclare. Et donc je ne vais pas me laisser guider par mes émotions, parce que je ressens, par mes circonstances, parce que je vois de mon présent, comme le peuple. Non, Dieu m'aime, car sa parole le déclare, et je m'appuie sur cela. C'est revenir à la base, Pourtant, Karl Barth, voilà, théologien autant qu'il soit, va vivre deux périodes très sombres, les deux guerres mondiales. Première guerre, deuxième guerre mondiale. Avec les tragédies que tout cela entraîne, hein. Donc, vous imaginez. Et du coup, il aurait pu être bousculé dans sa foi et dans sa compréhension de Dieu. Quand on voit autant de ravages et ce que le péché est capable de faire, comment dire Dieu aime et Dieu ne, quelque part ici, qu'est-ce qu'il fait? Mais Karl Barth ne va pas changer. Dans sa relation avec Dieu, il va rappeler une chose, Dieu m'aime, parce que sa parole le déclare. Et quelque part, même si aujourd'hui, moi, je le vois pas, je le ressens pas, je veux m'appuyer dessus et lui faire confiance. Et du coup, il ne va pas douter de l'amour du Seigneur, parce qu'il va s'appuyer sur sa parole. Ça va? C'est un vaste exercice à faire, hein, pour chacun de nous. Quelque part, nos émotions, elles ne sont pas mauvaises. Dieu fait aussi avec nos émotions. Mais il ne faut pas oublier, mes frères et sœurs, que nos émotions sont marquées par le péché. Dans nos mentalités, en tant que chrétiens, on pense que ce qui est marqué par le péché, c'est notre chair. Et quand on parle de notre chair, nous, on pense à notre corps physique. Mais la chair, dans la Bible, c'est tout l'être humain. Le corps, mais aussi son esprit, son intelligence, ses émotions, sa pensée. D'ailleurs, Jésus va le dire, hein. C'est pas ce qui rentre qui rend mauvais l'être humain, c'est ce qui en sort. C'est du cœur de l'homme que le péché, ici, la marque du péché se trouve. Pour nous, du coup, il s'agit de se reposer sur la seule chose qui est fiable, la parole de Dieu. Ce mardi soir, on a eu dans la réunion de prière, on a étudié l'évangile de Matthieu et Jésus dans le désert. Jésus dans le désert, il va pas répondre au diable par des arguments théologiques ou je sais pas quoi, une argumentation, il va répondre par la parole. Il va pas dire, c'est vrai, moi j'ai faim, je vais manger. Je ressens que j'ai faim, allez, t'as raison, allez, vas-y, on fait un deal et puis non, ta parole dit. Verset 4 de Malachie. Édom peut bien dire, nous avons été démolis, mais nous rebâtirons ce qui n'est plus que ruine. Mais le Seigneur des armées célestes déclare, eux ils rebâtiront, moi je démolirai. On appellera leur pays le territoire de la méchanceté, le peuple contre qui toujours l'Éternel sera en colère. Alors que vient faire Édom? Parce que c'est d'Édom dont il est question. Édom, c'était un peuple voisin d'Israël, c'était les descendants d'Ésaü. Et du coup, c'était un peu les rivaux du peuple. Donc il y avait une certaine, voilà, il y avait un lien de sang quelque part, mais c'était les rivaux du peuple. Et les Édomites, pendant que Israël était dans la galère, ils revenaient du pays promis, voilà, dans le pays où ils étaient, tout était en ruine. Eux Édom, peuple que Dieu avait maudit, hein, puisque c'était des nations païennes, eux, ils prospéraient. Ils vivaient très bien leur vie, ils prospéraient, ils n'étaient pas dans la galère, hein, comme le peuple d'Israël. Alors que pourtant, des prophètes vont prophétiser contre Édom. Et au final, qu'est-ce que Israël voit? Non seulement Dieu dit qu'il les aime, et eux n'arrivent pas à le voir parce qu'ils font confiance à ce qu'ils voient seulement de leur situation, mais en plus de cela, leurs ennemis, eux, prospèrent. Et quelque part, pendant que les méchants prospèrent, eux, ils sont dans la galère. Du coup, comment considérer l'amour de Dieu dans cette situation? Eux pensaient que c'était l'inverse qui aurait dû se faire. Et combien de fois, nous, on ne pense pas comme cela? Et on peut voir, du coup, autour de nous, et on peut se dire, mais lui, il n'est pas croyant, il n'est pas chrétien, et pourtant, lui, dans sa vie, ça se passe beaucoup mieux que dans la mienne. Et quelque part, ici, il y a une question que l'on a. On veut que Dieu règle nos problèmes avant que nous n'ayons à souffrir. Je répète, on veut que Dieu règle nos problèmes avant que nous n'ayons à souffrir. Mais cette pensée-là, c'est la chair qui parle. Qu'est-ce que va dire Jésus? Que celui qui m'aime, qui se charge de sa croix, et qu'il me suive. Pourquoi? Pas parce que Dieu c'est un sado et qu'il aime bien nous voir souffrir en nous piquant. Ah tiens, tu souffres, ah c'est bien, allez tu souffres. Non, mais parce que justement, on vient d'en parler tout à l'heure, parce que l'épreuve nous forge. Elle nous permet d'avancer dans la confiance dans le Seigneur. J'ai lu cette prière qui illustre des fois beaucoup de nos prières. J'ai demandé à Dieu d'ôter mon orgueil. Et Dieu m'a dit non. Il m'a dit que ce n'était pas à lui d'ôter, mais que c'était à moi de le déposer à ses pieds. J'ai demandé à Dieu de me donner de la patience. Et Dieu m'a dit non. que la patience, c'est le résultat de l'épreuve, et que cela ne pouvait être donné, mais que cela devait être gagné. J'ai demandé à Dieu de me donner le bonheur, et Dieu m'a dit non. Il m'a dit qu'il pouvait me donner des bénédictions, ça il peut, beaucoup de bénédictions, mais que le bonheur ne dépendait que de moi. J'ai demandé à Dieu de m'épargner la souffrance, et Dieu m'a dit non. Il m'a dit que je devais grandir, afin de ressembler de plus en plus à son Fils, Jésus-Christ. J'ai alors demandé à Dieu s'il m'aimait, un peu comme le peuple d'Israël. Seigneur, est-ce que tu m'aimes du coup au final? Tu me dis non à chaque fois là, bon, c'est bien. Et le Seigneur m'a dit oui, qu'il avait donné son Fils unique à ma place, et que je me tiendrais un jour devant sa présence parce que j'avais cru en lui et que je lui avais confié toute ma vie. J'ai alors demandé à Dieu de m'aider à aimer les autres autant qu'il m'aime. Et Dieu m'a dit, ah enfin, tu as compris. Bien souvent, nos prières, c'est d'éviter la souffrance et surtout, c'est le moi. Seigneur, permets-moi que. En oubliant que le Seigneur, lui, c'est deux commandements. Tu aimeras ton Dieu, le premier commandement, deuxième plus grand commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pour aimer son prochain, eh ben, du coup, il faut se mettre à sa place, il faut être compatissant, il faut aussi des fois être ferme. Mais du coup, ça s'apprend par les épreuves. Pour du coup avoir un cœur sensible aux autres. Et Dieu va conclure avec ce verset, au verset 5, « Et vous le verrez de vos yeux et vous direz, l'Éternel est très grand même au-delà du territoire d'Israël. » Par cette dernière phrase, Dieu va promettre qu'au bout du tunnel, sa lumière va briller. Et que quelque part, Dieu, il a été très pédagogue dans ce texte. Il va rappeler toute l'alliance qu'il a fait. Il va rappeler même que oui, Édom et le peuple, les peuples païens à côté prospèrent, mais il va leur dire, eux ils construisent, moi je démolirai. Et dans la suite, d'ailleurs, on va voir que Édom, aujourd'hui, n'existe plus d'ailleurs, ça n'existe plus, Édom, le peuple d'Édomites, on n'entend plus parler. Israël, eux, est toujours là. Et du coup, la question, c'est la fidélité du Seigneur. Seigneur, le Seigneur qui finalement qui tient ses promesses pour nous, quelque part dans nos épreuves, chaque épreuve a une fin. C'est l'Ecclésiaste qui va dire, il y a un temps pour tout. Et quelle que soit la situation ce matin que vous pouvez vivre, ici c'est avoir conscience que Dieu est au contrôle. On peut être découragé, Alice en a parlé ce matin, on peut être des fois peut-être déprimé de ce que l'on peut vivre, c'est tout à fait humain, il ne faut pas non plus vivre dans un déni. Mais ce qu'il faut faire, c'est surtout se tourner et tourner les regards vers le Seigneur. Comme Karl Barth, durant la guerre, il aurait pu douter de l'amour de Dieu, de sa compréhension de l'amour de Dieu, mais il va déclarer cette petite chanson d'enfant. Dieu m'aime parce que la Bible me le dit. Dieu nous attend avec ce cœur d'enfant qui lui fait confiance et dans les épreuves, finalement, savoir dire Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? C'est pas simple, hein? C'est pas simple, mes frères et sœurs, mais si j'en vous en parle ce matin, vous n'avez pas le choix, hein? Soit vous acceptez, soit vous allez le vivre de manière difficile parce que vous ne comprendrez pas. Mais ce que le peuple a vécu, Dieu nous appelle aussi à nous projeter dans cela pour grandir avec lui. Dieu ce matin nous aime. Il commence comme ça, je vous aime. Levons les yeux du coup vers sa lumière qui brille et cette déclaration de ce Dieu d'amour qui ne change pas. Et qui est valable pour nous ce matin. Dieu a choisi de nous aimer malgré nos doutes, malgré nos désobéissances. Malgré ce que nous pouvons faire, nos mauvais comportements, nos mauvaises paroles, Dieu nous a aimés. Romains 5, c'est Paul qui va dire ceci. Très beau passage. En effet, lorsque nous étions encore empêtrés dans nos péchés, incapables de nous aider nous-mêmes, trop faibles pour aimer Dieu ou lui apporter quoi que ce soit de valable, le Christ, au moment fixé par Dieu, est mort pour nous. C'est-à-dire que pour des impies qui ne se souciaient pas de Dieu, ça, c'est chacun de nous. Il est déjà extraordinaire que quelqu'un donne sa vie pour un homme de bien. Il peut arriver que pour un bienfaiteur ou pour une cause juste, un homme accepte de braver la mort. Mais Jésus-Christ est mort pour nous alors que nous vivions encore en conflit avec lui. N'est-ce pas là la meilleure preuve que Dieu nous aime? Ce matin, dans tout, peut-être ce que vous vivez de difficile, c'est de nous rappeler ici que Dieu nous aime. Et pour conclure, voilà, pour répondre à cette question, peut-être que vous vous posez ce matin, Dieu, en quoi m'as-tu aimé dans ma situation que je vis aujourd'hui? Vous rappelez que Dieu vous aime et il vous l'a prouvé. Comment il vous l'a prouvé? En quittant son ciel de gloire un jour pour vivre sur cette terre. Il l'a prouvé en s'identifiant à la condition humaine, il a vécu comme un homme, avec son lot de souffrances. Il n'a pas hésité un seul instant à prendre notre culpabilité. Lui qui était juste, il a été condamné à notre place. Tout le mal que nous avons commis et que nous commettons encore, Dieu l'a pris sur la croix pour que nous puissions être pardonnés, pour que nous puissions vivre une vie libre, réellement libre. Et il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que celle que Jésus-Christ nous a offerte par la croix. Ce matin, du coup, il ne s'agit pas de douter, mais de s'appuyer sur cela. Parce que Dieu nous a aimés. Et Dieu t'aime ce matin, et il t'aimera toujours malgré même tes doutes et tes incompréhensions. C'est beau ce texte de Malachi, puisque le peuple répond à l'amour de Dieu par une question. Et Dieu aurait pu se dire, bon, et si nous on était Dieu, voilà, on serait être humain quelque part. Ah, tu dis, bon, ok, d'accord, t'as pas compris, allez, retour en exil, déportation, allez, c'est parti. C'est peut-être ce que nous on aurait fait, pécheurs que nous sommes. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait preuve de pédagogie avec son peuple et il lui parle, il lui explique. Et il lui dit pourquoi. Et le Seigneur ce matin veut nous rappeler qu'il nous aime. Amen. Au milieu du feu de l'épreuve. Tu ne veux que nous changer, nous faire avancer avec toi. Et nous voulons encore ce matin nous appuyer, mon Dieu, sur ton amour et surtout sur ton amour à la croix. Qui un jour, mon Dieu, s'est manifesté alors que nous étions bien loin de toi. Nous ne voulions pas entendre parler de toi. Nous étions pécheurs. Et toi, tu as fait le premier pas, tu es descendu ici-bas, tu t'es incarné dans un corps d'être humain, limité. Pour venir encore offrir ta vie pour nous. Merci Seigneur parce que nous pouvons nous appuyer sur cet amour et dans toutes nos épreuves quelque part, nous appuyer comme Paul, comme tous ces premiers chrétiens, sur cet amour véritable que tu as manifesté à la croix. Viens Seigneur nous aider encore à prendre de la hauteur, du recul dans nos vies. Tu peux voir combien ça peut être difficile, nous sommes humains et toi tu le sais, tu l'as vécu aussi ici-bas. Mais viens nous aider encore. À pouvoir avancer dans cela, à grandir avec toi. Merci Seigneur parce que tu nous as donné aussi ton Église et des frères et sœurs pour nous accompagner, nous encourager quand nous n'arrivons pas, nous n'en avons plus à lever la tête et à voir ton amour envers nous. Prépare nos cœurs, Père, et que dans chacune de situations que nous pouvons vivre, nous pouvons encore grandir avec toi pour ressembler encore plus à ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Voilà que quelques voix s'élèvent.